Et pourtant, ne serait-ce pas une sorte de miracle que l'éducation, après avoir eu pendant des siècles et dans toutes les sociétés connu tous les caractères d'une institution sociale, ait pu changer aussi complètement de nature. Une pareille transformation paraîtra plus surprenante encore si l'on songe que le moment où elle se serait accomplie se trouve être précisément celui où l'éducation a commencé à devenir un véritable service public. Car c'est depuis la fin du siècle dernier qu'on la voit, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, tendre à se placer de plus en plus directement sous le contrôle et de la direction de l'État. Sans doute, les fins qu'elle poursuit se détachent tous les jours davantage des conditions locales ou ethniques qui les particularisaient autrefois. Elles deviennent plus générales et plus abstraites. Mais elles n'en restent pas moins essentiellement collectives. N'est-ce pas en effet la collectivité qui nous les impose? N'est-ce pas elle qui nous commande de développer avant tout chez nos enfants les qualités qui leur sont communes avec tous les hommes? Il y a plus. Non seulement elle exerce sur nous par la voie de l'opinion une pression morale pour que nous entendions ainsi nos devoirs d'éducateur, mais elle y attache un tel prix que, comme je viens de le rappeler, elle se charge elle-même de la tâche. Il est aisé de prévoir que si elle y tient à ce point, c'est qu'elle s'y sent intéressée. Et en effet, seule une culture largement humaine peut donner aux sociétés modernes les citoyens dont elle a besoin. Parce que chacun des grands peuples européens couvre un immense habitat. Parce qu'ils se recrutent dans les races les plus diverses. Parce que le travail y est divisé à l'infini. Les individus qui les composent sont tellement différents les uns des autres qu'il n'y a presque plus rien de commun entre eux, sauf leur qualité d'homme en général. Ils ne peuvent donc garder l'homogénéité indispensable à tout consensus social qu'à condition d'être aussi semblables que possible par le seul côté où ils se ressemblent tous, c'est-à-dire en tant qu'ils sont tous des êtres humains. En d'autres termes, dans des sociétés aussi différenciées, il ne peut guère y avoir d'autres types collectifs que le type générique de l'homme, qui vient à perdre quelque chose de sa généralité, qui se laisse entamer par quelques retours de l'intéressé à particularisme, et l'on verra ces grands états se résoudre à une multitude de petits groupes parcellaires et se décomposer. Ainsi, notre idéal pédagogique s'explique par une autre structure sociale, tout comme celui des Grecs et des Romains ne pouvait se comprendre que par l'organisation de la cité. Si notre éducation moderne n'est plus étroitement nationale, c'est dans la constitution des nations modernes qu'il faut en aller chercher la raison. Ce n'est pas tout. Non seulement c'est la société qui a élevé le type humain à la dignité de modèle que l'éducateur doit s'efforcer de reproduire, mais c'est elle encore qui le construit, et elle le construit suivant ses besoins. Car c'est une erreur de penser qu'il soit tout entier donné dans la constitution naturelle de l'homme, qu'il n'y ait qu'à les découvrir par une observation méthodique, sauf à l'embellir ensuite par l'imagination en portant par la pensée à leur plus haut développement tous les germes qui s'y trouvent. L'homme que l'éducation doit réaliser en nous, ce n'est pas l'homme tel que la nature l'a fait, mais tel que la société veut qu'il soit, et elle le veut tel que le réclame son économie intérieure. Ce qui le prouve, c'est la manière dont notre conception de l'homme a varié suivant les sociétés. Car les anciens, eux aussi, croyaient faire de leurs enfants des hommes, tout comme nous. S'ils se refusaient à voir leurs semblables dans l'étranger, c'est précisément parce qu'à leurs yeux, l'éducation de la cité pouvait seule faire des êtres vraiment et proprement humains. Seulement, ils concevaient l'humanité. Tout changement un peu important dans l'organisation d'une société a pour contre-coup un changement de même importance dans l'idéal que l'homme se fait de lui-même. Que sous la pression de la concurrence accrue, le travail social se divise davantage. Que la spécialisation de chaque travailleur soit à la fois plus marquée et plus précoce, le cercle des choses que comprend l'éducation humaine devra nécessairement se restreindre et, par suite, le type humain s'appauvrira en caractère. Naguère, la culture littéraire était considérée comme un élément essentiel de toute culture humaine. Et voilà que nous approchons d'un temps où elle ne sera peut-être plus elle-même qu'une spécialité. De même, s'il existe une hiérarchie reconnue entre nos facultés, s'il en est auquel nous attribuons une sorte de précédence et que nous devons, pour cette raison, développer plus que les autres, ce n'est pas que cette dignité leur soit intrinsèque, ce n'est pas que la nature elle-même leur ait de toute éternité assigné ce rang éminent, mais c'est qu'elles ont, pour la société, une plus haute valeur. Aussi, comme l'échelle de ces valeurs change nécessairement avec les sociétés, cette hiérarchie n'est jamais restée la même à deux moments différents de l'histoire. Hier, c'était le courage qui est au premier plan, avec toutes les facultés qu'implique la vertu militaire. Aujourd'hui, c'est la pensée et c'est la réflexion. Demain, ce sera peut-être la finesse du goût, la sensibilité aux choses de l'art. Ainsi, dans le présent comme dans le passé, notre idéal pédagogique est, jusque dans ses détails, l'œuvre de la société. C'est elle qui nous trace le portrait de l'homme que nous devons être, et dans ce portrait viennent se refléter toutes les particularités de son organisation.